La période des fêtes de fin d'année rime pour certains avec vacances, et donc du temps libre pour pêle-mêle. Se balader, lire, voir des copains, dormir, regarder des films ou encore écouter des podcasts. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Allez, vous me voyez peut-être venir. Aujourd'hui, je vous propose une spéciale podcast. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être rejoint en studio par Mathilde Mélin. Salut Mathilde, bienvenue.
Salut Steven, merci pour ton invitation.
Tu es journaliste à Slate et tu passes une partie de tes journées à écouter des podcasts puis à en parler. C'est ton travail.
Une très grande partie de mes journées puisque je suis critique de podcasts, donc je passe des heures par jour à écouter tout ce qui sort et puis j'en recommande certains sur Slate, dans ma newsletter Sans Algo et aussi sur mes réseaux sociaux.
Alors là, on est à la fin de l'année 2024. Quelles sont les tendances en matière de podcasts que tu as repérées cette année, tant sur le fond que sur la forme?
Sur la forme d'abord, je pense qu'on peut dire qu'il y a de plus en plus de podcasts de conversation, de podcasts avec des bandes d'amis, plusieurs animateurs qui traitent d'un sujet différent à chaque fois, et de moins en moins de podcasts de reportage, de podcasts documentaires ou de podcasts de fiction, pour une raison simple, la conversation ça coûte moins cher. On peut mettre 3 ou 4 personnes autour d'un micro pendant une heure, ça coûte pas très cher, tandis que faire un reportage à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, évidemment, ça engage des frais.
Est-ce qu'il y a toujours une effervescence, c'est-à-dire en matière de quantité de production de podcasts? Il y en a de plus en plus, tu en reçois de plus en plus, toi, dans ta boîte mail, ou alors ça se tasse un petit peu?
On n'a pas de chiffre exact sur le nombre de podcasts qui sortent ou qui existent, donc c'est ce que je vais te dire, c'est plutôt du ressenti. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu des périodes de l'année où il y a des creux de la vague, où je reçois moins de podcasts, et il y en a d'autres où ça se précipite. Par exemple, avant l'été, rien ne sortait, c'était que de la rediffusion. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de podcasts frais qui sont diffusés l'été. Là, la période de fin d'année, c'est aussi une période où il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, tant du côté des studios que du côté des indépendants.
Alors, on va faire ensemble quelques recommandations d'écoute, en sachant aussi que tu vas publier très rapidement là, ton top 2024 des podcasts sur slate.fr. Tu as écouté au total cette année 950 heures de podcasts, me disais-tu juste avant qu'on commence l'enregistrement.
C'est ça, l'année n'est pas encore finie, donc le chiffre n'est pas encore complètement bloqué.
Il est évolutif, c'est comme les voitures quand on veut les vendre, voilà, kilomètre évolutif. Heure d'écoute évolutif pour Mathilde Mélin sur les podcasts.
Je pense que je serai au-delà des 950 heures écoutées. L'année dernière, je devais être à 930, quelque chose comme ça. Et en termes de nombre d'épisodes, ça en représente entre 2000 et 2200 par année.
Alors, nous allons ensemble faire quelques recommandations supplémentaires d'écoute, je le disais. Une sélection qui sera riche pour celles et ceux qui font le choix de nous écouter en podcast où l'atelier des médias dure plus longtemps qu'à la radio. Donc, on est dans l'atelier sur RFI. On a fait le choix d'être exigeant. Notre sélection sera donc des podcasts de récits ou documentaires principalement et qui parlent de l'international. Le podcast, c'est du son. Et on se rend compte que même des chaînes de télévision s'intéressent au format podcast et certaines peuvent faire ça très bien. C'est le cas notamment des équipes de Quotidien, donc d'un studio de production qui s'appelle Bangumi, qui ont sorti 50 States. 50 States a déroulé avant la dernière présidentielle américaine un épisode sur chacun des 50 États des États-Unis et ils ont décidé de poursuivre après la présidentielle qui, on le rappelle, a vu l'élection du candidat républicain Donald Trump.
C'est un peu une des surprises podcast de cette année 2024. C'est l'émission Quotidien, qui est un talk show assez populaire en France, qui a sorti un premier podcast qui s'appelle 50 States. Ce podcast, il est porté par le journaliste Guillaume Hennet, qui est le rédacteur en chef des reportages pour l'émission Quotidien. Il se trouve que Guillaume, il est né aux États-Unis, il a une passion pour les États-Unis, et en voyant arriver cette élection présidentielle qu'elle allait avoir lieu en novembre, il s'est dit qu'il avait envie de raconter les États-Unis autrement. Il pouvait pas aller faire une année de reportage là-bas. Il devait faire quelque chose d'écrit, fait depuis Paris. Alors comment on raconte les États-Unis autrement, en ne parlant pas seulement des grandes villes ou des grands enjeux de l'élection politique? Il s'est dit, il y a 50 États, je vais faire 50 épisodes et à chaque épisode, je vais raconter un État des États-Unis. Raconter, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord le situer sur la carte, en donner les points névralgiques quelque part, et puis des anecdotes historiques, des choses qui sont constitutives aussi de l'identité de cet État en particulier. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce podcast, c'est que c'est la première fois que j'entends parler de l'Idaho, du Wyoming, du Nebraska, avec la même passion, la même longueur que la Californie, New York ou le Texas.
Il y a des références historiques, des interviews, c'est aussi saturé d'extraits sonores, c'est très très dynamique pour explorer les enjeux politiques et culturels des États-Unis, mais aussi les fractures, on peut le dire.
Oui, parce que malgré tout, Guillaume reste un journaliste intéressé par la politique américaine, et donc ce podcast, ces petits exposés quelque part de chaque État américain, c'est avant tout un prétexte pour nous raconter la politique. Qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui se joue dans chaque État. À la fin de chaque épisode, il fait une sorte de pronostic de est-ce que cet État va voter plus démocrate ou républicain. Les épisodes sont sortis avant l'élection, évidemment, et quand c'est un swing state, il nous explique quel est l'enjeu autour de cet État, qu'est-ce qui fait que les gens risquent de voter plutôt démocrate ou républicain dans le Wisconsin ou en Pennsylvanie, par exemple.
Dans la saison 2, Guillaume Hennett se penche sur les symboles du pouvoir américain et leur histoire. Il a débuté par le Secret Service, puis il a parlé de la Maison Blanche, d'Air Force One, de la Trump Tower, et le tout dernier porte sur Alcatraz.
Donald Trump, en effet, a multiplié les apparitions au tribunal. La justice lui reproche un nombre incalculable d'affaires. La simple liste de tous les chefs d'accusation suffirait à remplir un épisode de ce podcast.
Donald J. Trump is guilty of 34 counts of falsifying business records in the first degree.
This is a scam. This is a rigged trial.
Shut up.
Mais Donald n'a jamais paru vraiment inquiet. La prison, même pas peur.
Do you worry about going to jail?
No, I don't really. I don't even think about it.
I am willing to go to jail if that's what it takes for our country to win and become a democracy again.
I'd be very proud to go to jail for our constitution.
Trump, la justice, les juges, les avocats...
50 States par Guillaume Hennett, réalisation Guillaume Hennett et Pierre-Yves Pietri. C'est le podcast de Quotidien, une production Bangoumi. En mars 2024 est sorti Outside Kaboul, la suite d'Inside Kaboul de France Inter. Ce podcast est l'histoire d'une correspondance sonore. Une correspondance sonore entre une journaliste belge, Caroline Gillet, et deux femmes afghanes. Dans Inside Kaboul, on les avait suivies, elles racontaient sous un dispositif un peu particulier des notes vocales WhatsApp, elles racontaient leur quotidien. Et puis peu à peu, elles nous ont raconté leur adaptation en Europe, puisque Marwa est réfugiée en Allemagne. Ra, elle, était restée en Afghanistan. Depuis, elle s'est résolue à partir, elle a été évacuée de Kaboul grâce à l'argent généré par le podcast et son adaptation en documentaire animé. Mathilde, absolument tout, oui, tout t'a plu dans ce podcast.
C'est vraiment un de mes énormes coups de cœur 2024. J'avais déjà adoré la saison 1 et ce dispositif narratif dont tu parles des notes vocales. On entendait les échanges intimes de Marwa, Ra et Caroline. J'inclus Caroline dans ce groupe parce que elle-même nous faisait part de ses doutes personnels ou de ses questionnements face aux messages vocaux qu'elle recevait.
Questionnements éthiques aussi, on peut le signaler, hein, journalistiquement parlant.
Dans la saison 2, justement, elle met beaucoup plus en scène tous ces questionnements éthiques. On va peut-être expliquer pour les gens qui n'ont pas écouté le podcast. Donc, Marwa et Raha sont deux jeunes afghanes que Caroline a rencontrées virtuellement via des notes vocales en 2021 au retour des talibans au pouvoir. Marwa a très vite choisi de quitter l'Afghanistan et Raha a choisi de rester à Kaboul. Pendant des mois et des mois, elles ont échangé des notes vocales quasiment quotidiennement. Ces deux jeunes filles ont confié leur vie, leur intimité à Caroline Gillet, donc cette journaliste qu'elles ne connaissaient pas au début de cette aventure. Et puis elles sont petit à petit devenues amies sans jamais s'être rencontrées. Dans cette saison 2, Caroline rencontre Marwa et Ra en vrai cette fois. Et donc Caroline Gillet s'interroge sur est-ce qu'il faut aider Ra à venir s'installer en France. Elle tranche finalement en disant que oui. Et le plus intéressant, c'est ses réflexions qu'elle met en scène dans cette deuxième saison du podcast qui interroge la place du journaliste et la distance qu'un ou une journaliste doit ou peut avoir avec ses sources, surtout quand on travaille au long cours sur des sujets intimes comme ça.
Alors ça a beau être des notes WhatsApp, le dispositif, on l'a explicité, mais c'est également très soigné en matière de réalisation. La réalisation est signée Anna Bui et d'ailleurs, on peut le rappeler, ce podcast a été primé du prix Italia qui est un des plus fameux prix en matière de production radiophonique sonore.
Il y a en effet une magnifique réalisation réalisation. Anna Buis a fait partie des noms où quand je les vois au générique d'un podcast, je sais que le podcast va être bien. C'est vraiment une artiste sonore. Là, dans ce podcast, elle arrive à la fois à créer une narration, évidemment, juste en montage, en intercalant la voix off de la journaliste et des notes vocales, mais aussi en termes d'habillage sonore. Chaque épisode s'ouvre avec un générique, une musique. Ce sont des femmes afghanes qui chantent et cette musique, je trouve qu'elle donne tout l'esprit du podcast. C'est quelque chose de léger, ce sont des femmes qui chantent dans un pays où les talibans interdisent aux femmes de chanter et de faire de la musique. C'est un espèce de pied de nez aux talibans que je trouve magnifiquement trouvé.
Inside Kaboul.
Épisode 1, le choc et ce choix, partir ou rester. Août et septembre 2021. Ceci est l'histoire d'une correspondance. C'est vieux les correspondances, vieux comme les guerres. Ceci est l'histoire d'une correspondance de guerre et d'exil. Avec deux jeunes femmes, elles ont 20 ans et elles enregistrent des notes vocales. En août 2021, les talibans prennent Kaboul. Il y a sur nos écrans les images de leur arrivée dans les rues de la capitale afghane. Il y a la terreur et l'aéroport rempli de ceux et celles qui tentent de fuir. Je me demande depuis Paris ce qui se passe dans les appartements, comment on vit ce bouleversement dans les salons, dans les familles et quand on est une femme. Une connaissance là-bas me donne les contacts de deux de ses copines anglophones, Raha et Marwa. Je leur propose de me raconter ce qu'elles voient et ce qu'elles ressentent.
Hello Carolina, hope everything is going well with you.
It's 3 p.m. in the afternoon, Kabul.
Elles acceptent tout de suite. Ce sera donc deux histoires qui vont se répondre et pour les relier, vous m'entendrez moi. Je m'appelle Caroline Gillet. Elles enregistrent et m'envoient des notes vocales avec leur téléphone presque tous les jours. Elles enregistrent pour se sentir moins seules, pour partager l'horreur, partager les nouveaux sons du quotidien, les coups de feu par la fenêtre, les checkpoints, les peurs, les séparations, les regrets, et aussi les joies, les mariages, la promenade au coucher de soleil entre les immeubles, les soirées télé, les soirées du Ramadan. Elles ont 21 et 23 ans et elles refusent de se laisser faire.
Outside Kaboul, nouvelle série du podcast Inside Kaboul par Caroline Gillet, réalisation Anna Buis. C'est un podcast France Inter.
Pour qu'on sache et qu'on ne les oublie pas.
Michelle Ouimet est une journaliste canadienne. Elle a couvert de multiples conflits dans le monde pendant 3 décennies. Dans son balado pour Radio-Canada, intitulé « Dans l'intimité des dictateurs », elle plonge, comme son titre l'indique, dans l'intimité des dictateurs. Un balado où elle tente, balado, hein, attention, c'est le terme québécois pour parler des podcasts, elle tente donc de cerner l'univers de despotes déchus à travers les témoignages des femmes de leur entourage. Et là, dans cette première saison, elle s'intéresse, elle a réussi à remonter jusqu'à une épouse et une fille de Jean Bédel Bokassa, qui s'était proclamé empereur de la République centrafricaine en 1976. Les proches de Bokassa, que l'on entend dans ce podcast, partagent leurs souvenirs. Elles décrivent un dictateur qui pouvait parfois aussi avoir un visage humain.
C'est notamment le témoignage de Marie-Hélène Hassen, l'une des 17 femmes de Jean Bédel Bokassa, qui est donc un chef d'État autoritaire, on va dire ça comme ça. Marie-Hélène, elle a été mariée de force à Jean Bédel Bokassa quand elle avait 15 ou 16 ans et elle découvre la vie en autarcie dans ce palais présidentiel où, évidemment, elle est violée, elle est forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. Mais ce qui m'a le plus marqué dans son témoignage, c'est que l'homme qu'elle décrit n'est pas un tyran. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, elle insiste sur le fait qu'il la traite plutôt bien et qu'elle n'est pas victime de violence de sa part, mais elle veut quand même évidemment s'enfuir de ce palais où elle est enfermée. Elle va réussir à s'enfuir d'une manière assez originale. Elle va se faire passer pour folle.
Il y a également le témoignage de la fille de Jean Bédel Bokassa qui, pour le coup, eh bien, décrit une face beaucoup plus sombre du dictateur.
Tout à fait. Marie-France Bokassa, l'une des nombreuses enfants de Jean Bédel Bokassa, a vécu avec lui son exil en France après sa chute dans un château français où elle était enfermée avec son père et ses frères et sœurs, un père devenu alcoolique et violent. Je voudrais quand même prévenir les auditeurs qui vont écouter ce très beau podcast qu'il faut écouter, qu'il y a des scènes de violence et des scènes de torture qui sont décrites, qui peuvent être assez difficiles à entendre.
Il a organisé le mariage parce qu'il m'a épousée. mais pas pour les raisons qu'on pourrait penser. Bon, il y a cette petite jeune fille qu'il voulait, mais il y a aussi le père dans l'histoire.
La vengeance.
La vengeance contre mon père. Bon, j'avais peur de lui, hein. De toute façon, j'avais toujours très très peur.
Je m'appelle Michèle Ouimet, je suis journaliste. J'ai tissé ma toile autour des femmes de dictateurs pendant des mois. Elles n'ont pas été au pouvoir, du moins en apparence, et on ne sait presque rien sur elles. Qui sont-elles? Comment se sont-elles retrouvées mariées à un dictateur? Quel rôle ont-elles joué dans les affaires de l'État? Et comment ont-elles vécu la déchéance de leur mari?
Oui, bonjour, c'est Michèle Ouimet, la journaliste canadienne. Désolée de vous avoir...
Après mille et une démarches et presque autant d'appels téléphoniques, je suis finalement tombée sur l'histoire bouleversante de deux victimes du flamboyant dictateur de la République centrafricaine, Jean Bedel Bokassa. Une de ses 17 épouses, Marie-Reine Hassan, et une de ses filles parmi ses 56 enfants, Marie-France Bokassa. Ce balado présente les récits surréalistes de leur vie, marqués au fer rouge par le dictateur.
J'ai envie d'être moi et non seulement la fille de Jean Bedel Bokassa. Ça va être difficile, peut-être que je n'y arriverai jamais, parce que tout me rattache tout le temps à lui. Et donc voilà, c'est un travail de tous les jours.
C'est un podcast de Radio-Canada que l'on peut écouter sur l'application Radio-Canada Audio, O-H-D-I-O, qu'il est bien d'installer puisque Radio-Canada a fait le choix de se retirer des plateformes d'écoute traditionnelles que peuvent être Apple Podcasts, Spotify, etc. pour rester sur ses environnements propres.
Tout à fait. Ça vaut le coup aussi parce que le catalogue de Radio-Canada est très riche et qu'il y a plein d'autres podcasts qui pourraient vous plaire.
On parle souvent de l'actualité ukrainienne sur l'antenne de RFI. C'est le cas aussi sur les antennes de la radio-télévision suisse, la RTS. Maureen Mercier est la voix de la RTS en Ukraine depuis bientôt 3 ans. Elle couvre la guerre en Ukraine à hauteur d'hommes et de femmes. Cette année, en plus de ses reportages, interviews, analyses pour les antennes et pour l'antenne de RTS La Première, elle envoie des notes vocales à Eric Guevara-Frey qui présente sur RTS Première une émission d'actualité internationale intitulée « Tout un monde ». C'est donc un podcast, là encore, produit sous forme de notes vocales.
Des notes vocales tournées au « tu », à la deuxième personne. Dans ce podcast qui s'appelle « Carnet d'Ukraine », Maureen Mercier s'adresse donc directement à nous, auditeurs. Elle nous tutoie et elle nous raconte le quotidien des Ukrainiens en commençant par la ville de Kherson qui est sous occupation russe au moment où elle enregistre ses notes vocales.
Alors je sais que le tutoiement des auditeurs, enfin, le fait qu'un podcasteur ou une podcasteuse tutoie l'auditeur, ça ne te plaît pas toujours, Mathilde Mélin, mais là, ça ne pose pas problème.
Non, pas toujours. Et dans ce cas précis, je trouve que ça apporte quelque chose, parce que cette guerre, elle peut paraître loin de nous. Et aussi, quand on raconte la guerre, on raconte la géopolitique, les stratégies, les armes, le nombre de morts, mais on raconte pas le quotidien des gens qui sont sur place.
Et Maureen Mercier, elle vit avec les gens, elle raconte qu'elle prend le train avec eux, elle essaye de vivre aussi au milieu des Ukrainiens, avec les Ukrainiens, et de les faire entendre.
À Kherson, à Kharkiv, puis dans le train pour Kiev, elle passe des heures, des journées, des nuits entières avec les Ukrainiens. Et ce qu'elle raconte aussi, c'est qu'en tant que journaliste, elle-même est plongée dans cette guerre. Elle n'est pas une observatrice de loin. Quand les bombes tombent à côté de l'endroit où elle est, elle aussi, quelque part, peut prendre un éclat d'obus. Elle aussi peut être victime de cette guerre. Et donc, je trouve que dans ce cas précis, le tu se justifie tout particulièrement aussi parce qu'elle utilise le jeu. Elle s'autorise à parler de son expérience de journaliste au milieu de la guerre. Mais ce que je retiens le plus de Carnet d'Ukraine, c'est les témoignages qu'elle collecte, notamment des témoignages de la vie qui continue. Et ça, c'est quelque chose de très important dans ce podcast, c'est que on va dans un restaurant, dans un salon de manucure, dans un train pour aller à Kiev, et les gens, en fait, mangent, travaillent, voient leurs amis au milieu de la guerre et au milieu des bombes. Bien sûr, ils ont un avis sur ce qui se passe, mais ce qu'ils racontent à Maureen, c'est la vie au milieu de la guerre. C'est pas la guerre.
Mathilde Mélin, Maureen Mercier a été récompensée par le prix du journalisme 2024 des médias francophones publics, les MFP, une récompense décernée par un jury international d'auditeurs et d'auditrices. C'est un sujet en particulier qui a retenu l'attention de ce jury, un carnet d'Ukraine envoyé de Kharkiv en mai 2024. La ville était alors bombardée par les Russes.
Je suis dans un endroit très sympa. Ce matin, la ville est plutôt calme, pas de frappe. j'attends le tout jeune patron de ce restaurant. Tu vois la tête de Bob Dylan, jeune? Ben voilà, tu l'as. Même bouille, 27 ans, cheveux bouclés et bourriffés. Il s'excuse de son retard.
I'm just come from my bed.
En fait, il vient de se lever. 27
I'm
ans.
27.
On est comme ça, comme si de rien, en terrasse. Et puis...
Yep.
À Kharkiv, tu passes comme ça, de cette vie quasi normale, et puis tout à coup, une frappe, la guerre qui te rattrape.
C'est le signe de la prière. You wanna go inside?
Yeah.
On s'abrite à l'intérieur et on reprend la discussion. Je vois les employés qui poursuivent leur activité.
Okay.
J'ai du mal à te décrire ce qui se passe. C'est comme une sorte d'effort collectif. Voilà, tu sors le bombardement de ton esprit, tu continues ta vie. Mikita explique combien tu tentes de maintenir cette routine quotidienne depuis que cette merde, comme il dit, nous est tombée dessus, en fait. Si tu commences à cogiter sur ce qu'on vient d'entendre là, c'est la dépression qui pourrait tous nous tuer. Tu l'entends, il ne veut même pas prononcer le mot bombardement, comme pour le tenir à distance. Il raconte les difficultés économiques depuis le début de l'invasion russe, mais ce qui l'angoisse plus que les bombes, c'est d'être recruté par l'armée. Chaque jour, dans le bus, les autorités peuvent t'embarquer. C'est ce qui vient d'arriver à notre chef cuisinier. Il venait au travail, il a été arrêté dans le bus. Il était en tenue de travail, ils ne lui ont même pas donné la possibilité de rentrer chez lui. Ils l'ont envoyé direct à l'armée.
Carnet d'Ukraine par Maureen Mercier, un podcast de la RTS, la radio-télévision suisse. Alors, les podcasts sont produits par des médias traditionnels, des radios, des télévisions aussi parfois, mais il y a aussi des studios de podcasts qui se sont spécialisés dans des productions. C'est le cas en France, par exemple, de Sonic, qui nous a proposé une série intitulée « Adieu la France ».
Une série documentaire qui est faite par le journaliste David Comeyas. Le principe est simple, il est allé voir des Français d'origine étrangère qui ont choisi d'aller vivre dans le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Eux n'y ont jamais vécu, peut-être qu'ils y sont allés en vacances quand ils étaient enfants, mais c'est pas leur pays, c'est pas chez eux. Mais en tant qu'enfants d'immigrés en France, ils ont vécu le racisme, une forme de rejet, des difficultés, et ils ont eu cette curiosité pour le pays d'origine de leur famille, et ils ont donc choisi d'y retourner. On va donc au Maroc, mais aussi à Dakar, avec Jean-Pierre Sec, un producteur de musique qui a décidé de mettre tout son savoir-faire appris en France au service de l'industrie musicale africaine. C'est un portrait vraiment intéressant parce que il raconte pas seulement son expérience française d'être un homme noir en France, du racisme en France, il raconte aussi ce qui s'est passé quand il a déménagé. Il a dû réapprendre des codes, aussi la langue qu'on ne lui avait pas transmise, et il a dû se faire sa place dans l'industrie musicale de son pays d'accueil.
Alors ça nous plonge dans les parcelles assainies à Dakar. Il nous parle donc de l'alimentation, de la religion, de sa manière d'aborder les autres. Il raconte aussi ses retrouvailles avec Booba, 20 ans après le premier album de Lunatic qu'ils ont produit ensemble.
En fait, moi, la chose dont je me suis rendu compte, c'est premièrement l'agressivité.
Non, t'inquiète.
Déjà, je suis quelqu'un qui parle particulièrement vite, avec des mots des fois qui sont, tu vois, dans les syllabes et la façon dont tu les débites, un peu trop percutants. Et tu te rends compte que, ouais, il faut être un peu plus diplomate dans la façon de dire les choses.
Et comme on part vendredi matin, c'est pour ça que je gérais ça.
C'est dans le business, mais c'est aussi dans la vie de société. Tu apprends à te canaliser parce que tu te rends compte qu'en fait, tu dégages une agressivité qui crée un rejet chez les autres. La caricature du Parisien, tu vois, si on prend la caricature du Parisien qui est hyper agressif, dans certaines sociétés, ça passe pas du tout, tu vois.
Non, mais je t'appelle demain, comme ça, je te donne les détails. Ok, ça marche. À demain, mon gars. À tout. Yes. Ouais.
Non, c'est pas plus facile. Hein. C'est pas plus facile. C'est pas plus facile parce que toute une barrière culturelle qu'il faut réussir à passer. Et je suis né en France. J'ai une culture française. Je comprends le Wolof, mais je parle pas. Je peux être que vu comme un Français. Mais il y a quand même un truc où je suis perçu comme un Sénégalais parce que déjà, je connais ma culture, je connais les plats, je connais les rites et tout ça. T'es capable de t'asseoir par terre pour manger avec les gens. Donc on va me percevoir comme un Français parce qu'effectivement, on se dit, ben, lui, comment il se comporte et comment il est Français, mais il est aussi Sénégalais parce que quand tu regardes les gens et que tu les considères, on n'a rien à mettre derrière, tu vois, ça suffit en fait. Tu fais, entre guillemets, allégeance à ta culture.
Adieu la France, un podcast sonique par David Comeyas, dispo sur toutes les plateformes et sur YouTube. Un podcast aussi qui dresse le portrait en creux d'une France qui peine à embrasser le multiculturalisme. Dans le podcast, il y a des conversations, il y a du reportage, il y a du documentaire, mais il y a aussi des fictions. Code Noir en est un. Code Noir, les révoltés du Gaoulé, c'est une production d'Initial Studio pour Outre-mer, la première sur un thème fort et difficile, la violence de l'esclavage dans les Antilles et en particulier dans la Martinique de 1710, Mathilde Mélin.
On est donc en Martinique en 1710 et on est sur un bateau qui accoste. Un bateau d'esclaves qui ont été kidnappés en Afrique pour être vendus dans les plantations de canne à sucre en Martinique.
Alors c'est inspiré de faits réels, hein. Il faut le rappeler, la révolte du Gaoulé, une révolte d'esclaves au XVIIIe siècle.
Tout à fait, donc on suit le parcours de deux esclaves qui viennent d'arriver sur l'île, Amadi et Chima, qui vont rencontrer d'autres esclaves et faire partie d'une révolte qui s'appelle l'affaire du Gaoulé. Cette révolte, elle a vraiment eu lieu, elle a donné lieu à 17 condamnations à mort et 11 condamnations à la torture. Évidemment, c'est extrêmement violent. Mais ce que raconte ce podcast, c'est un moment de bascule de l'esclavage dans les Antilles françaises. Un moment où il commençait à y avoir plus d'esclaves noirs que d'esclavagistes blancs. Et donc, les blancs ont dû faire appel à la violence pour réprimer cette révolte, histoire de tenter de garder le pouvoir. Et malheureusement, ça a fonctionné.
Un podcast qui s'appuie notamment sur les travaux d'une chercheuse spécialiste de l'esclavage dans l'espace caribéen, Myriam Cotias, qui est directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages. Ce podcast, Mathilde Mélin, a été primé au Paris Podcast Festival en octobre 2024 en tant que meilleure fiction pour la qualité de son récit et de son intrigue. Et on le signale, c'est joliment mis en onde par Vincent Hazard, dont c'est la première production de podcast.
Il a déjà fait des fictions radiophoniques pour France Culture et France Inter notamment. Mais en effet, c'est son premier podcast natif et c'est un peu l'homme à tout faire sur cette production puisque c'est lui qui écrit en collaboration avec l'historienne Myriam Cotias, tu l'as dit, et c'est aussi lui qui réalise. C'est un travail qui a pris des mois, voire des années, il me semble. C'est vraiment un magnifique travail, aussi un magnifique casting. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont, dans son écriture, il a suggéré plein de choses. Il a suggéré le fait que les esclaves qui arrivaient en Martinique ne parlaient pas tous la même langue. Il a suggéré le fait qu'on a essayé de les créoliser, de leur apprendre le créole. Il a suggéré le fait que les femmes esclaves n'avaient pas le même destin que les hommes esclaves. Il y a un personnage féminin, par exemple, dans cette fiction, qui est victime de viol de la part du maître de la plantation, un homme blanc, qui s'appelle Monsieur Braguin. Et donc, cette petite Jeanne doit trouver une solution pour se débarrasser de cet enfant. Donc, il parle aussi des violences sexuelles vécues par les femmes esclaves en Martinique. Et je pense que c'est un sujet dont on parle vraiment trop peu.
Un podcast, Mathilde Mélin, dont on ne ressort pas indemne.
On n'en ressort pas indemne, déjà parce que c'est une histoire qu'on connaît mal. Et donc, on voit la réalité en face de ce qui s'est passé avec l'esclavagisme en France, dans les territoires français colonisés. Et aussi parce qu'il y a des scènes de torture et de viol qui sont mises en scène avec beaucoup de subtilité. C'est pas trash à écouter, mais quand même, c'est des sujets compliqués à écouter. Donc je préfère prévenir les auditeurs, si vous vous lancez dans l'écoute de Code Noir, ne l'écoutez pas avec des enfants.
Yécric, Yécrac, l'histoire que je vais vous raconter se passe sur une île qu'on appelle aujourd'hui la Martinique. Il y a très longtemps, elle avait un autre nom. Avant l'arrivée des colons, les Indiens Caraïbes l'avaient appelée Madinina, l'île aux fleurs. Partout, on était charmé par l'odeur vanillée des fleurs du frangipanier. On était saisi par le parfum des fleurs de balisier. Mais un jour, des colons apportaient dans leur bagage la fleur de lys, symbole du roi Louis XIV, propriétaire de l'île de la Martinique. Et à la fin de notre histoire, l'odeur de la fleur de lys aura remplacé celle des autres fleurs. On ne sentira plus que l'odeur de la chair brûlée. L'odeur de la fleur de lys marquée au fer rouge sur le torse de 11 esclaves accusés de rébellion. Et ces 11-là auront eu de la chance. Ils seront en vie, mais les autres. 7 autres seront pendus, 9 torturés à mort et un jeté vivant dans le feu. Le corps carbonisé, fumant, montré en place publique pour l'exemple. Après cette histoire, l'odeur de l'île aux fleurs ne sera vraiment plus la même.
Code Noir, les révoltés du Gaoulé par Vincent Hazard, un podcast d'Initial Studio pour Outre-mer La Première, une chaîne du groupe France Télévisions. Mathilde Mélin, merci beaucoup d'être venue partager à ce micro quelques-unes de tes écoutes de podcast.
Merci Steven.
Chaque mois, Mathilde, tu écoutes 60 à 100 heures de podcast. Tu tiens scrupuleusement le compte de ce que tu savoures ou de ce que tu t'infliges en le notant dans des petits carnets et en partageant sur Insta ou sur X tes stats podcast de Mathilde. C'est le hashtag que tu utilises.
Tout à fait, les stats podcast de Mathilde, Mathilde sans H, que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux et aussi maintenant sur Blue Sky, une autre plateforme de réseau social.
J'ajoute que toutes les références de podcasts dont on a parlé dans cet épisode sont dispo sur votre application d'écoute dans la description ou sur RFI.fr si vous nous écoutez à la radio. Je ne saurais aussi que trop vous conseiller d'écouter les podcasts originaux de RFI, notamment sur l'application RFI Pure Radio. On a sorti la deuxième saison de Ballet Pâtes qui porte sur les masculinités en Afrique, incarnée par Kpenaï Traoré. Une somme sur les Palestiniens, portée par Guilhem Delteil, reporter au desk Proche-Orient de RFI. Une enquête, le mystère du 27e trésor qui porte sur les restitutions d'un tabouret royal au Bénin par Pierre Firsion. Tiaroy, les tirailleurs sacrifiés de Charlie Dupiot qui mêle récits et reportages sur le massacre de Tiaroy en décembre 1944 au Sénégal. Et enfin, dernièrement, les contes de Rukyata, des contes écrits et racontés par Rukyata Ouédraogo. Mathilde Mélin, merci beaucoup d'être venue dans l'atelier des médias.
Merci Steven.
Je te souhaite de bonnes fêtes et je te dis à très vite. Et pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast et qui aiment ce moyen de diffusion et les narrations qu'il permet, celles et ceux qui aiment la belle radio, nous vous donnons rendez-vous à Brest, fin janvier, début février, à Longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute. Si vous le pouvez, allez-y et venez à notre rencontre. C'est ainsi que se termine l'atelier des médias. Chaque samedi, l'application d'écoute de votre choix accueille un épisode à écouter si vous le voulez au casque. N'oubliez pas que mettre des étoiles ou poster un commentaire sur votre application d'écoute est utile pour les podcasteurs. Vous pouvez aussi le faire pour l'atelier des médias au hasard sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Pour nous contacter, il existe une adresse mail, on ne peut plus simple, atelier@rfi.fr. Pour info, nous serons en rediffusion pour les deux prochains week-ends. Ne soyez donc pas surpris de ne pas avoir du neuf dans vos oreilles. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous en janvier pour un nouveau numéro original de l'Atelier des médias. Salut !